France Culture.
Allez, 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 reprenez vos places et bouclez la ceinture. Les midis reprennent à 13h. Je recevrai Hugo, bienvenue, réalisateur du film d'animation Arco. Mais tout de suite, Marie Sorbier est là pour le Point Culture.
Bonjour Marie et bonjour à tous. La télévision est-elle le nouvel Eldorado de notre besoin de nostalgie? Après le partenariat de France Télévisions avec l'INA, qui offre aux spectateurs des programmes diffusés du temps de l'ORTF depuis avril dernier, la grille de 2025 propose aussi le retour de plusieurs émissions qui ont eu leurs heures de gloire il y a plus de 20 ans. Alors que cache cette rétromania télévisuelle? C'est le dossier du Point Culture du jour. François Josse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sémiologue, professeur émérite en sciences de l'information. Les téléspectateurs assistent à un retour en force d'émissions de télévision des années 2000. Alors il y a eu le retour de la Star Academy, du Big Deal. Et cette semaine, on pourra regarder à nouveau Ça se discute, hein, cette émission phare de Jean-Luc Delarue qui est arrêtée depuis 2009. Cette rétromania télévisuelle est-elle d'abord une demande du public ou une stratégie des chaînes selon vous ?
Alors, je pense que c'est les deux, mais c'est essentiellement une stratégie des chaînes, puisque c'est elle qui décide finalement quels sont les programmes qu'elle met à l'antenne.
Mais comment le public s'y retrouve là-dedans? Comment savoir si finalement les spectateurs vont être au rendez-vous?
Alors, il faut partir du fait que la télévision est un média, je dirais, de la mémoire. Contrairement à ce qu'avait dit Godard, qui avait dit la télévision est sans mémoire. Au contraire, l'écoute de la télévision, le fait de regarder la télévision est toujours associé à d'autres choses, véritablement à sa vie. Il y a eu toute une génération qui regardait le Boogie Boulga avec Casimir, etc. C'est une constante, c'est-à-dire que on veut retrouver une partie de son passé à travers une émission. On se dit, par exemple, tu te rappelles c'était quand on faisait ça, maman, etc. Ou tu te rappelles, on regardait avec mon frère, voilà. C'est-à-dire qu'on resitue les programmes. C'est pas seulement un programme qui est programmé, c'est des souvenirs qui sont d'une certaine façon programmés.
Donc comme une madeleine affective?
Oui, et il y a une chose importante aussi, c'est que ces programmes nostalgiques sont fédérateurs. Pourquoi? Parce qu'on a vu, par exemple, pendant le confinement, on se souvient que on a repassé les films de Louis de Funès, toujours avec le même succès, avec le même monde, la même audience. Et pourquoi? Parce que, en fait, c'est une façon pour les enfants de comprendre la vie de leurs parents, et il y a l'envie des parents, souvent, de montrer aux enfants, tu vois ce qui m'amusait à l'époque, tu vois ce qui m'émouvait à l'époque, etc. Donc, c'est un grand intérêt pour les chaînes, parce que la difficulté des chaînes, c'est de fédérer des générations différentes, etc. Et c'est à travers cette envie de savoir comment on a vécu. Vous savez, il y a un exemple, une chose intéressante, c'est l'INA montre publie de plus en plus ses archives. Et ses retours en arrière ont en fait un grand succès. Et on sait, par exemple, que beaucoup de jeunes veulent savoir ce qui se passait à leur naissance. Qu'est-ce qui se passait quand ils sont nés. Et donc, les jeux, principalement, mais les programmes télévisés de phare, comme ceux qu'on a cités, le Big Deal, le Juste Prix, le Star Academy, etc. C'est l'intérêt pour ces programmes tient à cet aspect de transmission de génération.
Ce que vous évoquiez d'ailleurs à l'INA, hein, ces petites capsules s'appellent des madeleines, hein, donc c'est le même mot qu'on avait employé à l'instant. Est-ce que l'époque de diffusion change le sens de l'émission? Par exemple, je pense à la Star Academy, qui est donc une école de chant et de danse que l'on peut suivre chaque semaine à la télévision. Est-ce que la Star Academy en 2025, elle dit autre chose qu'en 2001?
Oui, complètement. Parce que, si vous voulez, au début de cette télé-réalité, il y avait beaucoup d'émissions étaient leur intérêt du fait qu'on avait des personnages, des personnalités. On se souvient par exemple de Jean Pascal qui faisait le spectacle, en fait, même s'il chantait pas bien, c'était toutes les imbécilités qu'il pouvait faire qui étaient intéressantes. Aujourd'hui, ça s'est adapté, c'est-à-dire que par exemple, toute cette télé-réalité qui était basée sur le clash, maintenant sont souvent bienveillante. C'est-à-dire qu'en 2025, la Starac, elle essayait de former vraiment des chanteurs. Et l'intérêt pour la vie privée, pour les clashs, était beaucoup moins grand. Donc, bien sûr, il y a des adaptations, de même que mettre des femmes dans la roue de la fortune qui servent de potiches, ça n'est plus le cas. Soit on les a supprimées, elles sont plus dans le programme, soit, au contraire, on leur donne un rôle plus important.
Est-ce que ce risque de nostalgie que vous évoquez, François Jost, peut bloquer la créativité? C'est-à-dire, est-ce que finalement on préfère reprendre un ancien programme et l'adapter au goût du jour qu'en créer un nouveau?
Oui, je pense qu'il y a deux choses. D'une part, effectivement, il y a peut-être un manque de créativité, c'est-à-dire que on reprend des recettes dont on sait qu'elles ont marché, donc il y a pas une prise de risque considérable. Et puis, une autre difficulté, c'est que il n'est pas facile de remplacer des choses qui marchent bien ou assez bien dans l'existant. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire pour un nouveau concept de jeu. Il faut aussi qu'il y ait la place dans la grille pour la mettre, cette nouvelle émission. Donc, c'est vrai que c'est ce retour sur le passé est quand même une sorte d'assurance, non pas à cause de la qualité des programmes, mais parce que, on le sait, ça évoque des parties de sa vie. D'autre part, ce qui est intéressant, c'est de voir que des sites comme YouTube s'emparent aussi de choses télévisuelles. Certaines animatrices ou animateurs font leur propre chaîne et il y a un enchaînement des deux médias. Par exemple, on parlait de Star Academy. Star Academy, il y a eu toute une... ça a été précédé de nombreuses diffusions du vieux Star Academy qui a amené les jeunes pratiquement à s'y intéresser. Donc, il y a une complémentarité, si vous voulez, des plateformes et des émissions. Et on voit d'ailleurs de plus en plus que les plateformes imitent certaines choses des chaînes télé. Les chaînes télé font des plateformes, etc.
Mais est-ce qu'on regarde encore en flux? Je veux dire, est-ce qu'à 21h, on se met devant la télé pour regarder un programme? Vous avez évoqué ce mot de grille qui veut bien dire ça. Ou est-ce que le replay aujourd'hui a surpassé cette histoire de programme, de grille et d'horaire?
C'est sûr qu'il y a une deuxième vie des programmes et que le replay est très important. Mais on constate quand même que, quand on regarde les chiffres d'audience, que c'est une partie non négligeable du public qui regarde la télévision. On peut pas, si vous voulez, quand on sait que le journal télévisé, c'est chaque jour à peu près 11 millions de personnes, que certains analystes le disent aussi, c'est que une émission qui a du succès, elle est regardée par 4-5 millions de personnes, alors que sur Internet, quand on dit ça a touché 1 million de personnes, ça met un peu beaucoup plus de temps à toucher ces personnes-là.
Bien, merci beaucoup François Jost.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, la crise continue pour le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême.
Oui, Anouk Ricard, Grand Prix 2025, vient d'annoncer qu'elle ne se rendrait pas à Angoulême en janvier, alors qu'une grande exposition doit lui être consacrée. Par ce boycott, la dessinatrice apporte ainsi son soutien aux nombreuses critiques apparues ces derniers mois à l'encontre de 9e Art Plus, la société organisatrice, et son directeur, Franck Bondou. De nombreux auteurs, éditeurs et spécialistes de la bande dessinée lui reprochent, entre autres, de privilégier l'aspect financier à l'exigence artistique. Tous demandent un changement à la tête de l'événement, alors qu'on saura le 8 novembre prochain si les dirigeants actuels seront reconduits ou non pour 9 ans.
Direction à présent les États-Unis, où l'humoriste américain Marc Maron vient d'enregistrer le dernier épisode de son célèbre podcast.
Oui, depuis 16 ans, l'humoriste américain enregistre deux fois par mois, dans son garage à Los Angeles, un épisode de son podcast What the Fuck with Marc Maron. Considéré comme l'un des pionniers du podcast audio sur Internet, il réalise de longues interviews avec des personnalités. Toutes les plus grandes stars américaines se sont ainsi bousculées pour être à son micro, jusqu'à Barack Obama, qui fut interviewé en 2015 alors qu'il était président et qui a aussi été le dernier invité du dernier épisode diffusé ce lundi. Jamais avare de critiques à l'égard de Donald Trump, l'arrêt de l'émission de Marc Maron réduit un peu plus l'espace de contestation à l'égard du président américain.
Et pour finir, Marie, la nouvelle fondation Cartier va bientôt être inaugurée à Paris.
Après avoir ouvert en 1984 à Jouy-en-Josas et déménagé en 1994 boulevard Raspail à Paris, la Fondation Cartier pour l'art contemporain s'installe dans un nouveau lieu. Elle ouvrira ses portes le 25 octobre dans l'ancien bâtiment du Louvre des Antiquaires qui a été complètement réhabilité par l'architecte Jean Nouvel. Le bâtiment d'origine a été évidé de l'intérieur tandis que des plateformes mobiles ont été construites permettant, grâce à une machinerie visible, de moduler l'espace au gré des expositions. Situé dans le premier arrondissement de Paris, à proximité du Centre Pompidou, du Musée du Louvre et de la Bourse de Commerce, la Fondation Cartier se place au cœur géographique du monde de l'art parisien.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
À demain, en attendant, il est 13h et vous écoutez France Culture.